L'objectif, c'est, en disant non-genré, c'est pas d'imposer la réalité d'une minorité à une majorité, mais c'est véritablement d'être universel et d'essayer de dire, bah, en fait, on va se détacher des schémas de la société qui sont assez binaires avec une bipartition homme d'un côté, femme de l'autre, et on va juste reconnaître qu'il y a plein de diversité, il y a plein de beautés différentes qui composent ce monde, et que donc, du coup, il n'y a pas lieu aujourd'hui d'avoir un marketing de genre sur un produit qui est purement plaisir.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre d'Anne Vonner. Après un joli parcours dans l'industrie cosmétique, Anne a décidé de créer Estampes, une marque de maquillage. Mais pas question de lancer une énième marque de make-up et encore moins d'adhérer aux codes habituels de cette industrie très marketée. Estampes porte d'autres valeurs et de profonds engagements sociétaux, notamment sur la question du genre. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Anne.
Bonjour Chantal.
Alors Anne, tu as un passé dans les cosmétiques, le maquillage notamment. Quel était ton job ?
Alors moi, à la sortie de mon école de commerce, j'ai intégré le groupe Estée Lauder à Paris. Et au sein du groupe Estée Lauder, j'ai travaillé pour une marque de maquillage qui s'appelait Smashbox,
oui,
qui avait été rachetée par le groupe peut-être un an ou deux ans avant que je travaille pour cette marque. Donc on était encore très jeunes à l'échelle du groupe Lauder. Et c'était vraiment passionnant parce que je travaillais avec la directrice marketing et on était vraiment sur des problématiques d'ouverture, de lancement. Je pense à l'ouverture du premier flagship sur la zone Europe, à des lancements de pays, encore une fois sur la zone Europe, parce que c'était la zone dont on était responsable. Donc c'était vraiment passionnant, hyper intéressant au niveau structuration d'un business à ses débuts. Après, j'ai bossé à Londres, moi, pour une start-up pendant 2 ans. Pareil, à un poste de marketing, c'était une start-up qui était plutôt spécialisée dans tout ce qui était bien-être, santé. Ça m'a beaucoup plu aussi parce que dans une start-up, on est touche-à-tout, on doit être hyper polyvalent, on est dans l'opérationnel, donc ça c'est chouette. Et après, j'ai bossé dans le conseil pendant plusieurs années, et notamment, donc, je faisais du conseil en stratégie retail et digital. Donc on aidait des marques, des grandes enseignes françaises sur des problématiques qui étaient hyper diverses, que ce soit l'omnicanal, l'expérience en magasin.
D'accord, tout ça toujours à Londres.
Alors, en conseil, j'ai d'abord démarré pour le cabinet de conseil pendant 2 ans au bureau de Londres, et après ils m'ont bougé à Paris pour ouvrir le bureau parisien.
D'accord.
Et donc, dans cette expérience de conseil, j'ai eu la chance de bosser pas mal avec des marques de cosmétiques, encore une fois. Donc, je suis encore revenue dans cette industrie que j'aimais déjà beaucoup. Et j'ai bossé pour Hermès Parfums, notamment. Pour le groupe Rocher, qui a des marques qu'on connaît très bien, type Yves Rocher, Dr Pierricot, etc. Et voilà. Et après, j'ai lancé mon propre projet, Estampes.
Et alors, quel était ton rapport personnel au make-up ?
Alors moi, j'ai un rapport, je pense, depuis toute jeune, d'abord passionnée. J'ai toujours été celle qui maquillait ses sœurs, ses amis, etc. Après, mon rapport personnel au make-up, il a beaucoup changé. J'avais un rapport plutôt conflictuel quand j'étais adolescente. Et aujourd'hui, j'ai un rapport beaucoup plus conscient au maquillage. Conflictuel parce que quand j'étais jeune, j'étais une ado qui était très mal dans sa peau. J'avais pas mal d'acné. L'été, quand je bronzais, j'avais des taches de rousseur. J'en ai encore, mais j'en ai beaucoup sur le visage. Et évidemment, les ados, tu sais comment ils sont, ils peuvent être très vaches, les uns envers les autres.
C'est sûr.
Et on m'avait fait des remarques. Et j'utilise donc beaucoup le maquillage pour cacher mon acné, pour cacher mes taches de rousseur, pour justement ne plus avoir de remarques et, on va dire, me fondre un peu dans la masse. Et du coup, j'avais un maquillage beaucoup plus chargé quand j'étais ado. Aujourd'hui, j'ai un maquillage, je pense, qui est beaucoup plus naturel. Et surtout, j'ai un rapport au maquillage qui a changé, puisque je le fais d'abord aujourd'hui vraiment par plaisir. J'adore ça, j'adore le moment devant le miroir le matin où voilà, je prends du temps pour utiliser mes produits et c'est vraiment pour moi que je le fais. Et j'ai un maquillage qui est beaucoup plus naturel aujourd'hui parce que en grandissant et en travaillant sur soi, on s'assume plus, on est plus conscient de notre singularité et on essaye d'en être plus fière, je pense, ouais, en grandissant.
Bien sûr.
Et donc aujourd'hui, j'essaye plus de me cacher derrière le maquillage.
C'est ça.
Et j'essaye plutôt, au contraire, de mettre en valeur ce que je considère peut-être être des atouts chez moi. Et donc, c'est un rapport qui est différent. Et peut-être le deuxième pan de ce rapport plus conscient au make-up, c'est que depuis plusieurs années, moi, j'ai fait un switch, un changement vers les cosmétiques naturels, bio. Je fais beaucoup plus attention aussi aux emballages. Pas que d'ailleurs que dans mes cosmétiques, mais partout dans mon quotidien, à essayer de les diminuer. Et donc aujourd'hui, le maquillage, il n'a pas fait exception. J'ai essayé de faire plus attention à ce que je me mettais sur la peau, aux emballages, quand il y avait des efforts qui pouvaient être faits facilement.
Et alors, quel a été l'élément déclencheur pour la création des estampes ?
Je ne sais pas s'il y a eu un élément déclencheur, une sorte de déclic. Je pense que ça a été un long processus. Entre le moment où ça a commencé à germer dans mon esprit et le moment où j'ai quitté mon job dans le conseil pour me lancer à 100% sur le projet, je pense qu'il s'est écoulé entre 9 et 10 mois, où j'ai vraiment réfléchi, pitché plusieurs fois l'embryon d'idées que j'avais pour avoir des retours. Et puis après, c'est pareil, de mon côté, on va dire au niveau usage personnel du maquillage, ça a été un processus long parce que j'ai commencé à changer 1, 2, 3 cosmétiques vers le naturel ou vers du rechargeable. Et quand je suis arrivée sur le maquillage, moi j'avais l'habitude d'utiliser des marques très connues de maquillage, assez premium, que je trouvais très belles esthétiquement. Et quand j'ai fait le switch vers le naturel, je ne trouvais pas forcément l'équivalent au niveau plaisir esthétique. Et du coup, c'est un peu plein de choses qui se sont mises... en place au fur et à mesure, et puis au bout d'un moment, on arrive au bout, quoi.
Et on se lance.
C'est ça. Alors, les marques de maquillage sont nombreuses, quoique un peu moins quand même dans le naturel. Ouais. Quelle est la valeur ajoutée des estampes ?
Alors, je dirais que notre valeur ajoutée, nous, elle a deux dimensions. Elle a une dimension produit et elle a une dimension sociétale. La dimension produit, aujourd'hui, nous, on développe les 4 basiques d'une routine pour un teint frais avec un taux de naturalité sur chaque produit entre 97 et 100%. Mais surtout, on essaye d'avoir un maquillage qui est à la limite du soin. Je pense notamment à notre anti-cerne. On a mis de l'huile d'avocat, un actif d'extrait d'avocat pour que l'anti-cerne lui-même agisse sur la micro-circulation du contour de l'œil et aide à diminuer l'apparence des cernes.
Okay.
Après, au niveau du pack... On est sans plastique, on fait du rechargeable. On a créé surtout un boîtier qui est universel, c'est-à-dire qu'en fait, il est compatible avec toutes les références de la gamme. Aujourd'hui, si tu veux le recharger avec le baume à lèvres parce qu'on est en hiver, et cet été, tu veux le recharger avec la poudre bronzante parce que tu as plutôt envie d'avoir un joli hâle, c'est possible. Et c'est comme ça qu'on va vraiment changer les usages et permettre aux gens de faire évoluer, de garder un produit et non pas de le jeter. Mmh. Et au niveau fabrication, c'est pas forcément un caractère innovant, mais en tout cas, c'est une valeur ajoutée. On produit soit en France, soit dans des pays limitrophes à la France, à savoir l'Italie ou l'Espagne. Le
D'accord.
packaging en Espagne, les poudres en Italie.
Okay.
Et au niveau de la valeur ajoutée sociétale, nous, on a un positionnement non genré. C'est souvent le gros sujet et c'est comme ça que on émerge aux yeux du public qui ne nous connaît pas encore. Parce que nous, en fait, quand on a commencé à réfléchir à l'intérêt, au sens que ça avait d'ajouter une énième marque de maquillage dans l'industrie de la beauté, on est parti du pourquoi. On a demandé à un pool, à peu près à une poule de 150 personnes, pourquoi vous vous maquillez ? Et à plus de 95% du temps, la réponse des gens, c'était « je me maquille pour prendre confiance en moi, parce que ça me donne un élan ». Ok, donc si la confiance en soi, c'est le cœur du réacteur, on parle bien d'une problématique qui est universelle. Tout le monde a déjà douté de son apparence pour x, y raison. Penser aujourd'hui que seules les femmes devraient ou doutent de leur apparence physique, c'est une vision qui est un peu obsolète de la beauté, voire sexiste. Et donc aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est en disant non-genré, c'est pas d'imposer la réalité d'une minorité à une majorité, mais c'est véritablement d'être universel et d'essayer de dire, en fait, on va se détacher des schémas de la société qui sont assez binaires avec une bipartition homme d'un côté, femme de l'autre. Et on va juste reconnaître qu'il y a plein de diversité, il y a plein de beautés différentes qui composent ce monde. Et que donc, du coup, il n'y a pas lieu aujourd'hui d'avoir un marketing de genre sur un produit qui est purement plaisir et qui n'est pas physiologiquement
Ouais, plus adapté aux femmes qu'aux hommes, par
exactement.
Exemple. Ouais. Et ça a été simple de créer cette marque. Est-ce que voilà, quelles ont été tes sources d'inspiration?
Je pense que ça, c'est jamais simple parce qu'on se pose beaucoup de questions, on se remet beaucoup en question en permanence. Mais moi, j'avais un rêve de départ où je me disais, je veux un maquillage 100% français, je veux du bio, je veux du naturel. Au début, dans ma tête, je voulais du labellisé et finalement, je ne l'ai pas fait. Mmh. Et en fait, tu as un rêve de départ. J'avais un cahier des charges assez fourni, on va dire ça comme ça. et du coup, quand tu te lances, alors ce qui est bien, c'est que tu as la naïveté de l'entrepreneur, donc tu te dis que tout est possible. Et en fait, tu commences au démarrage en te disant, bon, OK, avec qui, comment, dans combien de temps je peux le faire, à quel prix. Et en fait, bah, tu prends ces questions-là les unes après les autres. Tu vois, j'ai d'abord essayé de trouver les fournisseurs. Mmh. Alors bon, déjà quand tu dis je veux faire du bio, du naturel, du sans plastique, du rechargeable.
Ça fait beaucoup d'exigences.
Tu vois, déjà il n'y a plus grand monde.
C'est ça, j'imagine.
Et donc du coup tu trouves les gens avec qui tu peux travailler, aussi avec qui tu peux travailler économiquement parce que tu n'es pas sans savoir que dans l'industrie cosmétique, les labos t'imposent des minimums de quantité de commandes par référence. On va dire le standard dans l'industrie, c'est entre 5 et 10 000 pièces. 5 000 et 10 000 pièces,
5 000 et 10 000 pièces, oui, tout à fait.
Ce qui est énorme à l'échelle d'une marque qui se lance.
Donc,
tu ne peux pas commander 10 000 pièces d'un produit où tu ne sais même pas encore si les gens vont adhérer à ta proposition.
C'est ça.
Et donc déjà, ça fait que tu sélectionnes, tu composes. Et en fait, ton rêve, il prend forme, mais il...
Oui, il s'adapte à la réalité.
Il s'adapte à la réalité et aux contraintes que tu as, on va dire, en tant qu'entreprise, quoi.
C'est ça.
Donc voilà, et après se pose la question on va dire, du temps, en combien de temps tu peux développer cette marque. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu as la réalité de ton run personnel, c'est-à-dire combien de temps je peux tenir sans me payer.
Sans me payer,
Et après, tu as la réalité, dans combien de temps on peut le faire, d'autant plus dans l'année 2020, où on s'était du start and stop en continu avec les confinements, etc. Et voilà, et donc du coup, non, c'est pas simple de créer une marque. Pour moi, tu es en constante adaptation.
Ouais.
Mais on y arrive quand même, quoi.
Si on veut, on y arrive.
S'accrocher, quoi.
Ouais, c'est ça. Et alors, estampe en détail, c'est combien de produits et quelles caractéristiques?
Alors, aujourd'hui, nous, on développe les 4 basiques d'une routine cosmétique pour avoir un teint frais. On a un anti-cerne, un baume à lèvres, une poudre matifiante qui n'a pas de couleur, qui s'adapte à toutes les carnations de peau, et une poudre bronzante. Sur l'anti-cerne, on a aujourd'hui 4 teintes. Et pour la poudre bronzante, on a 2 teintes. On espère bien évidemment développer dans le futur de plus en plus de teintes. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a une réalité économique derrière tout ça. Une teinte, c'est un développement. De R&D, c'est...
Toi, tu es vraiment partie de la page blanche.
Exactement, et surtout, on est partie de la page blanche au niveau formule, puisqu'on a créé nos propres formules de zéro. On n'a pas acheté des formules existantes qu'on a... On va dire ça comme ça.
Voilà.
Et pareil pour le pack, on n'a pas acheté un packaging sur étagère, on a créé notre propre pack parce qu'on avait des exigences sur lesquelles moi j'ai pas eu envie de lâcher et ça a été difficile, mais on a réussi à créer notre propre pack de zéro, mais ça implique du coup des moules industriels, du prototypage. Et voilà, et donc c'est plus long.
C'est plus long, et plus cher.
Et plus cher. Mmh. Donc aujourd'hui on a 4 produits. Le boîtier est aussi vendu comme un produit sur notre e-shop.
On peut l'acheter à part.
Ouais, exactement. Parce qu'on veut vraiment que les gens se rendent compte de la valeur du packaging et qu'en fait, ils se rendent compte du coût que ça peut avoir sur un produit donné. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le packaging, c'est le coût principal de beaucoup de cosmétiques. Donc, c'est important, je pense aussi, de démontrer ça. Et c'est important que les gens puissent acheter la recharge, mettre eux-mêmes leur recharge dans le boîtier pour qu'ils comprennent le système, comment ça fonctionne et ce qu'ils vont pouvoir en faire et comment ils vont pouvoir le faire évoluer. Donc on a 9 références au total, si je compte le boîtier et toutes les déclinaisons de teintes.
D'accord. Et chaque référence peut s'intégrer dans le boîtier.
Exactement. Le boîtier, en fait, il a...
Il a une dimension.
Il a une dimension qui... En fait, on a calé tous nos produits sur la dimension du boîtier.
Okay.
Et aujourd'hui, c'était le meilleur moyen pour vraiment faire un pack que les gens n'allaient pas jeter et qu'ils allaient garder dans le temps. Et après, au niveau de la matière première même du pack, le liège, je pense qu'on va en parler,
oui,
mais
bah oui.
On a fait exprès d'avoir aussi une matière première qui soit à la fois sympa dans la main, c'est-à-dire chaude, esthétique, chaleureuse quand tu le tiens, et à la fois biodégradable, parce qu'on a réfléchi au produit dans l'ensemble de son cycle de vie. Donc si demain, malgré le côté évolutif du boîtier, la personne n'en veut plus, qu'est-ce qu'elle en fait ? Si elle le jette, qu'est-ce que ça devient ? Bah, le liège, c'est ni plus ni moins de l'écorce de bois.
Ouais.
Donc
c'est biodégradable.
Et après, si on pouvait aller un tout petit peu plus loin dans le développement du pack, les recharges, donc soit du baume, soit des poudres, soit de l'anticerne, elles sont soit donc coulées, compactées dans des godets, donc c'est fond métallique.
Oui.
Et les godets, on les a fait en aluminium, pas par exemple en acier blanc, etc. Parce que l'aluminium, c'est recyclable à l'infini. Tu le mets dans la poubelle jaune et ça se recycle très facilement.
Ouais, c'est ça. Ok. Et alors, oui, enfin, l'engagement écologique est très important pour toi. Le liège, donc, ça s'est imposé à toi comment ? Parce que moi, je me souviens que je t'ai rencontrée à l'époque où Estampe était en gestation. Je crois que tu avais quand même pas trop mal avancé. Et à l'époque, tu m'avais parlé du Zamac, hein, qui est
un beau
métal. Ouais, ouais, tu voulais faire ça. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?
Moi, au démarrage, je voulais donc, comme je te le disais, créer une marque qui soit aussi saine que esthétique. Mmh. On n'ait pas la sensation que pour avoir une bonne formule, on ait sacrifié le côté plaisir du maquillage. Et je voulais donc un packaging qui soit vraiment beau, qui soit agréable, que ça soit un objet qu'on ait envie d'avoir et de garder. Et j'ai commencé à regarder les différents fournisseurs de packs. Et dans mon exigence de packs durables, je me suis dit, pour faire quelque chose de durable, si on le réfléchit dans son ensemble, sur l'ensemble de la chaîne, il faut qu'on choisisse bien la matière première dans laquelle est composé le pack. Parce que c'est ça qui fait la différence.
Exactement.
Aujourd'hui, on m'a beaucoup proposé au démarrage, des plastiques recyclés,
ouais,
etc.
PET et compagnie, ouais.
Ouais, mais aujourd'hui, on sait très bien que le plastique, ça se recycle pas vraiment. Aujourd'hui, il y a seulement 9% du plastique qu'on a généré dans le monde depuis 1950 qui a effectivement été recyclé.
Ouais.
11%, on les a brûlés. Les 80% c'est dans la nature, on sait pas où.
C'est
donc
ça.
Bref. Donc, je suis partie d'abord de la matière première et en cherchant un rendu assez premium. Je suis tombée sur le Zamac, qui est un alliage à base d'aluminium. Mmh. Donc en fait, le Zamac, tu peux le fondre à l'infini et ça peut être hyper intéressant. J'avais trouvé en plus une fonderie en France, etc. Donc je m'étais dit, là, je vais avoir mon made in France,
ouais, c'est ça.
Ma matière première, etc.
Un beau packaging, un peu luxe et tout. Mmh.
La vérité, c'est que j'ai complètement déchanté au niveau économique. Parce qu'en fait, les moules industriels pour faire un boîtier en Zamac, c'était colossal,
ouais,
les prix.
J'imagine.
Et le prix unitaire du boîtier pour moi, il était énorme. J'aurais dû vendre un produit à un prix complètement délirant. Et après, j'ai continué à essayer de trouver un fournisseur dans le Zamac. Mm. Et en fait, j'avais trouvé une société française, mais le Zamac, il vient de Chine. Parce qu'en fait, la société française, mais véritablement la machine de production, elle est en Chine.
Ah,
et ça,
okay.
Franchement, ça me...
Ouais, c'était pas possible.
Oui, puis j'aurais pas eu l'impression d'être très honnête, de dire c'est un fournisseur français, mais en fait, l'usine, au bout de la chaîne, elle est en Asie. Après, j'ai donc essayé de changer mon fusil d'épaule, de trouver une autre matière première. Je suis partie sur du bois au démarrage, parce que j'avais trouvé une société qui était en Europe. Le bois venait de forêts gérées de manière durable. J'ai continué un peu mes recherches, et en fait, entre le bois et le liège, c'est quand même assez proche. Mmh. Et le liège, c'était encore plus intéressant, parce que, contrairement au bois, tu ne coupes pas l'arbre. Le liège, c'est l'écorce d'un arbre qui s'appelle le chêne-liège, qui est un arbre qui pousse dans le bassin méditerranéen. Donc, c'est génial parce que c'est dans les pays limitrophes à la France. Mmh. Donc, la matière première même, tu la sources, on la source en Espagne.
Ok.
Tu grattes l'écorce de cet arbre. L'écorce, elle va se régénérer naturellement tous les 9 à 10 ans. Donc, tu ne coupes pas l'arbre, tu n'abîmes pas l'arbre. Mmh. Après, tu vas récupérer cette écorce, tu vas la purifier des petites impuretés, etc. Tu vas en faire des petites granules. Et après, c'est comme ça que tu vas réaliser ton boîtier en liège à partir d'un moule industriel.
D'accord.
Et donc, c'est une matière qui est en plus chaude au toucher, qui est imperméable, qui est légère.
Ouais, ça compte.
Et surtout, en plus, qui est donc biodégradable.
Ouais.
Donc, ça cochait
toutes les cases.
Encore plus de cases que les autres matières.
Que t'avais imaginé.
Mais ça a été long et parfois un peu difficile. Et t'as toujours le sentiment que tu recommences à zéro.
Ouais,
mais,
c'est ça.
Mais bon, je suis contente qu'on ait réussi à faire ça.
Ouais. Et est-ce que tu dirais que ton expérience dans de grandes entreprises de cosmétiques t'a aidé dans ton cheminement créatif ? Est-ce qu'on arrive à se détacher justement facilement de certains automatismes ?
Je pense pas que mon expérience dans des grandes structures m'ait aidé au niveau créatif. Mmh. Je pense que ça m'a vraiment aidé à structurer ma façon de travailler. Parce que tu as des process, tu respectes des deadlines et en gros, tu es formé à bonne école pour avoir une certaine rigueur. Et pour la petite histoire, tu vois, je me souviens, le labo familial français qui nous fait l'anti-cerne et le baume, avec qui on a beaucoup travaillé, quand je suis venue avec mon petit PowerPoint sous le bras pour pitcher estampes, ce que j'avais envie de faire, et je leur avais dit, bon ben voilà, j'ai envie que ça existe à horizon 12-15 mois. Et la fondatrice du labo m'a regardé avec des gros yeux en se disant « c'est optimiste ».
Ah oui.
Et on a réussi. Et quand on a réussi, tu vois, quand on a fait le lancement là en janvier, elle m'a dit « franchement, j'étais pas sûre que tu y arriverais dans le délai imparti ». Et on a tenu le truc, quoi. Donc je pense que les grands groupes, ça t'aide vraiment à ça, parce que t'es structuré dans la façon dont tu travailles. Mmh. Après, du fait des process, t'es pas forcément encouragé à être extrêmement créatif. C'est pas toi qui crée.
Non, c'est pas toi qui crée, c'est clair. Mmh.
Donc l'aspect créatif, tu vois, créer un packaging de zéro.
Ouais, ça tu connaissais
pas. Imaginer une identité visuelle de marque, tout ça, j'avais jamais fait.
Ouais.
Mais ça, c'est ce que j'ai trouvé en partie le plus amusant. J'ai adoré faire ça.
Ouais, j'imagine. Et Estampe a une identité non genrée, très affirmée, presque radicale, hein, dans sa communication visuelle. Qu'est-ce qui motive ton engagement ?
Moi, je pense que ce qui me motive le plus, c'est l'ouverture d'esprit qu'on insuffle à l'industrie du maquillage. Après, ça, c'est important pour moi. Je dirais pas qu'on est radical, je dirais qu'on essaye d'être universel. En fait, aujourd'hui, il y a vraiment des stéréotypes du genre qui perdurent, qui sont assez clivants. Et pour moi, les stéréotypes du genre, c'est l'aboutissement d'une espèce de généralisation des identités. En fait, aujourd'hui, on a agrégé, réduit, moyennisé et surtout structuré sur une base assez binaire, homme d'un côté, femme de l'autre, ce que doit être
la beauté,
les identités, etc. Mmh. Et aujourd'hui, c'est pas du tout révélateur du monde dans lequel on vit. Je pense qu'il y a beaucoup plus de diversité qui compose ce monde. Et donc, avoir un positionnement non genré, c'est juste non plus nous, en tant que marque, dire la beauté, c'est ça, un beau maquillage, c'est ça. C'est plutôt dire, en fait, il y a plein de beautés qui composent ce monde. Et nous, nos produits, ils sont accessibles, disponibles à tout le monde. Et aujourd'hui, lutter contre les stéréotypes du genre, c'est quelque chose qui, moi, me passionne et je pense qu'on s'en amuse dans l'univers des estampes. Et encore une fois, on n'impose pas la réalité d'une minorité, une minorité par exemple d'hommes qui veulent se maquiller à une majorité. L'idée, c'est véritablement de permettre à tout le monde de se sentir bien, de reconnaître que en fait, la notion de féminité, de masculinité ou autre telle qu'on l'a vécue, c'est complètement obsolète.
Et aujourd'hui,
Je considère que quelqu'un peut être féminin un jour, masculin l'autre, ou d'une énergie indifférenciée. Mmh. Et il n'y a pas de problème, en fait.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est important d'en finir avec, je pense, le marketing de genre, quand c'est illégitime, parce que ce n'est pas sur une base physiologique ou autre. Donc, c'est très important. Et on parle souvent, tu vois, tu as le sexe biologique.
Oui.
Et tu as le sexe social. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, le sexe social, qui est basé uniquement sur, on va dire, des croyances depuis qu'on est petit, de genre, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est complètement obsolète. Tu vois, c'est un peu le cliché de les rasoirs, par exemple.
Oui, les rasoirs roses, les rasoirs bleus.
Les rasoirs bleus, les rasoirs roses. Et le rasoir rose, il coûte 2 euros de plus.
En plus,
tu vois,
c'est ça.
Je trouve ça...
C'est l'alu.
Je trouve ça aberrant. Mmh. Et en fait, aujourd'hui... moi, je trouve ça passionnant de traiter de la question du genre. Parce qu'encore une fois, du fait des évolutions socio-historiques, tu vois très bien que les différences hommes, femmes, genrés, etc., bah, c'est en train de se rapprocher, tu vois. Donc voilà.
Et de quoi tu as besoin pour Estampes aujourd'hui? C'est le moment de demander. Hein.
Ouais, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est équipe. Aujourd'hui, moi, je travaille avec une stagiaire, mais j'aimerais pouvoir, tu vois... Ouais,
étoffer un peu.
Recruter des gens. Et donc, pour ça, on a aussi besoin de fonds. Aujourd'hui, Estampes, c'est une entreprise qui est autofinancée. Mmh. On a aussi fait une campagne de crowdfunding qui a bien fonctionné, qui nous a bien aidés. Mais pour recruter des gens, ça a un coût important. Ouais, donc, je pense que la prochaine étape, c'est vraiment d'essayer de constituer, structurer et de pérenniser une équipe. Et donc, pour ça, de lever des fonds. Donc, c'est un peu mon objectif dans l'année à venir, on va dire ça comme ça.
Ouais. Et on trouve Estampes sur Internet, sur l'e-shop, pour l'instant.
Estampes-cosmetics, CS à la fin, on est en mode anglais, .com. Et après, sur Instagram, on est sur @estampescosmetics.
L'idée, c'est que, parce que là, à l'heure où on enregistre, on est reparti pour quelques semaines de confinement.
Oui.
Et donc l'idée, ce serait aussi peut-être de vendre en physique, dans des pop-up stores ou des choses comme ça.
C'est ce que je te disais, je devais avoir une ouverture de boutique prévue. Alors, pas de boutique en propre, dans une boutique donnée, en avril sur Paris. Du coup...
c'est reporté.
Je pense que ça se fera pas en avril. Je pense que c'est important, quand on est une marque de maquillage, d'avoir une présence physique, parce que les gens ont vraiment besoin de voir les teintes.
C'est ça.
Et on l'a vu pendant la campagne de crowdfunding, parce que les produits non teintés ont eu un très grand succès. Et les gens nous ont beaucoup écrit pour recevoir de l'aide dans le choix de la teinte sur les produits, notamment anti-cernes correcteurs et poudre bronzante.
D'accord.
Donc je pense que la présence physique, ça va nous aider à montrer, tester les produits. Et encore une fois, nous, jusqu'aux dernières annonces du gouvernement très récemment, on faisait des séances photo, tu sais, participatives pour des membres de notre communauté. Donc on propose à qui veut se faire photographier de venir en studio avec une photographe professionnelle. Il y a une make-up artiste qui est sur place, qui est super aussi, avec qui on bosse depuis le début. Et du coup, les gens peuvent tester les produits.
Ouais, d'accord.
Et l'objectif de la séance photo, c'est de les aider à prendre confiance en eux, de répondre encore une fois à notre mission de confiance en soi. Et voilà. Et ça a beaucoup aidé aussi, parce que ça a aidé les gens à tester les teintes, voir ce qui matchait le mieux pour leur teint.
Et c'est un challenge aujourd'hui de lancer une marque de maquillage en ces temps de Covid, de port du masque. Comment tu vois l'avenir pour Estampes ?
Je pense qu'il faut être hyper agile, et il faut accepter parfois de laisser tomber des projets dans le projet. Je te donne un exemple très concret. Au démarrage, quand on voulait développer notre série de basiques, on voulait un produit pour les lèvres, teinté. Et typiquement, on l'a pas fait.
Ouais.
Et on était assez avancé dans le développement. Et j'ai dit au labo, on le garde pour un jour l'utiliser, le sortir, parce qu'on est quand même content de ce qu'on a fait.
Bien sûr, ouais.
Mais la vérité, c'est qu'on va pas le faire maintenant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça a pas de sens.
Ouais, c'est ça.
Le baume à lèvres, ça a un sens, parce que les gens ont besoin de s'hydrater les lèvres, d'autant plus avec le masque, la respiration, etc. On est plutôt dans le soin,
dans du maquillage
teinté.
Ouais.
Mais tu vois, le produit pour les lèvres teinté, on le fera plus tard. Mais
faut
quand tu as investi du temps et de l'argent, tu te dis, on va pas le faire et on va attendre. Il y a un petit délai de quelques semaines avant que tu l'acceptes déjà toi en tant qu'entrepreneur, après tu le dises à tes fournisseurs. Après, je pense qu'on a une super relation avec nos labos, donc on est vraiment en co-création. Donc quand tu leur dis, ça, ils sont OK, ils comprennent. Faut accepter de le faire. À l'époque dans laquelle on vit depuis 2020, t'es obligé.
Ouais, t'as pas le choix.
T'as pas le choix, sinon tu mets sur le marché des produits qui n'ont aucun sens.
Ouais, c'est ça.
Et de toute façon, personne te les achètera. Donc, point barre, quoi. Donc voilà.
Bon, longue vie à Estampes, alors.
Ouais, j'espère. On se donne du mal, en tout cas.
C'est super. Merci, Anne.
Merci beaucoup, Chantal.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. 5 étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h.